une image très forte, hein, que moi qui m'a bouleversé, hein, c'est de voir des jeunes arriver au Resto du Cœur avec leur tenue de vendeurs d'Uber ou Uber Eats, c'est-à-dire que eux-mêmes ils apportent à manger, mais ils n'ont pas de quoi manger pour eux, quoi.
C'est un des sons les plus forts de la semaine. Patrice Blanc, le patron des Restos du Cœur, dans la matinale de France Inter. Image désolante, en effet, de ceux qui livrent des repas sans eux-mêmes avoir de quoi manger. Le visage des nouveaux pauvres, ceux qui basculent à cause du Covid. Et ce qui se confirme, c'est que le virus n'aime ni les jeunes, ni les précaires. Tourisme, loisirs, culture, les secteurs les plus touchés, ce sont ceux, justement, qui emploient une plus grande part de jeunes. Ce sont aussi ceux dans lesquels on trouve le plus de CDD, de missions d'intérim. Et enfin, ces secteurs-là, ce sont ceux qui sont, évidemment, le moins adaptés au télétravail. Voilà ce que nous dit, cette semaine, encore une excellente étude des économistes de l'Institut des politiques publiques. Alors c'est un fait, le virus creuse les inégalités et les 18-25 ans en difficulté sont un très gros trou dans la raquette du quoi qu'il en coûte. À 20 ans, pas de famille, pas de boulot, ben on aura 0 euro. Les associations continuent de pousser pour un RSA jeune et le gouvernement répond subvention aux entreprises pour qu'elles embauchent. Et puis garantie jeune, ça c'est un chèque avec un parcours d'insertion. Toujours donc cette philosophie de lutte contre la pauvreté par l'accès à l'emploi. Et pourquoi pas quand le chômage baisse ? Mais aujourd'hui, demain, pour la jeunesse, du travail, est-ce qu'il y en aura ?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bon, et vous savez quoi, la réponse, comme elle n'est pas simple, on est en train de préparer un petit travail là-dessus, vous l'entendrez la semaine prochaine. Bienvenue, pour l'instant, nous sommes le samedi 21 novembre, c'est Économie, et nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec la réalisatrice Juliette Gou, avec Valentin Pérez, l'attaché de production, et puis Florent Bujon qui nous accompagne à la technique ce matin. Les débatteurs aussi sont là. Bonjour Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne.
Bonjour.
Bonjour à vous Christian Chavagneux, éditorialiste chez Alternative Économiques.
Bonjour à tous.
Bon Christian, vous savez ce qu'ils écoutent les Français de 9 à 10 ?
Non.
Eh ben nous.
Ouais.
Enfin vous quoi. Vous. Alors, qu'est-ce que je vous dis ? Le magazine économique de France Inter, leader sur cette tranche 9 à 10. Et Laurent, si vous voulez savoir peut-être qui est derrière le poste, eh bien 6 fois sur 10, votre auditeur c'est une auditrice.
Ma maman.
Votre maman, entre autres, hein, mais bonjour à elle. Un auditeur sur 10 en Ile-de-France, voilà pour ceux qui pensent que France Inter, c'est qu'une radio de bobo parisien.
Ma maman aussi, mais en province.
Bon, France Inter, la radio des territoires et des mamans. Allez, ce matin, les débatteurs, vous vous attaquez au débat Amazon. On va ouvrir le paquet pour savoir ce qu'il y a dedans exactement. Ça sera dans un instant. La toile de fond, c'est l'anxiété des petits commerçants dits non essentiels. Quand rouvriront-ils ? On saura ça mardi prochain. Avec le second confinement, de plus en plus se sont lancés dans la vente en ligne. Ils ont monté leur site. Comment est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ça compense leur perte de chiffre d'affaires ? Vous entendrez le reportage de Manuel Ruffez. Et puis ce samedi, notre invité, il est au cœur de ce tableau. C'est bien sûr lui qui surveille les comptes, il accorde les prêts, les crédits ou pas. Thierry Laborde est le directeur général adjoint de BNP Paribas et il sera avec nous dans ce studio vers 9h45. Et ça sera juste avant 10h. Le moment Foulon, les questions à ma vie au boulot. Encore plein de questions, vous verrez, sur le télétravail très précises. Les réponses donc à la fin de l'émission. Mais tout de suite, le débat, le zapping, on y va. Amazon est-il un profiteur de crise ?
Un Noël sans Amazon, c'est le but d'une pétition, un boycott contre l'hégémonie d'Amazon et pour qu'en cette période compliquée continuent à vivre les petits commerces.
Oui, bien sûr, j'ai signé cette tribune.
Éric Piolle, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble.
Là, ce que nous contestons, ce contre quoi nous luttons, c'est finalement cette injustice absolument incroyable. Cette injustice qui tord les tripes des commerçants, des libraires, un peu partout, qui sont objectivement déprimés. Vous savez que pour un emploi créé par Amazon, c'est 4 emplois détruits dans nos villes et nos villages. Donc il faut ne pas dérouler ce tapis rouge pour Amazon.
Amazon, c'est à peu près 1% du commerce de détail en France, donc c'est une entreprise qui est encore petite en France.
Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France.
C'est une entreprise qui, aujourd'hui, donne la possibilité à des dizaines de milliers d'entreprises de vendre par son intermédiaire. C'est 6 unités sur 10 sur notre site qui sont vendues par des entreprises tierces. Et donc, voilà, on est cette entreprise-là, et on n'est pas le grand méchant qu'on décrit aujourd'hui sur toutes les ondes.
Laurent Escure.
Je ne me mets pas en situation de juger ceux qui pratiquent l'achat par Amazon, parce que parfois on n'a pas le choix, parce qu'on est tellement éloigné. C'est parfois une des solutions.
Secrétaire général de l'UNSA.
En revanche, Amazon, il faut les secouer, c'est-à-dire qu'ils traitent mal leurs salariés et ils posent un problème et une concurrence déloyale avec tout un tas de petits commerçants.
Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget.
Le comportement de consommation de beaucoup de ménages change vis-à-vis aussi des plateformes Internet. Mais il ne faudrait pas croire que tout d'un coup, Amazon serait le grand méchant et que les petits commerces seraient les petits gentils. Si Amazon pouvait décaler cette journée du Black Friday, je trouve que ça serait un signal des innovations un petit peu de situation exceptionnelle qu'on pourrait imaginer avec des plateformes comme Amazon. Mais ni bouc émissaire trop facile, ni solution simpliste sur la réouverture des commerces.
Arnaud Montebourg.
Amazon, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des plateformes françaises.
Ancien ministre de l'économie et du redressement productif.
C'est Discount, VP, Darty, Fnac. Donc ouais. Il y a 100 milliards d'euros de dépenses des Français dans l'e-commerce l'année dernière et Amazon, c'est 20%. Donc 80%, c'est les nouvelles attitudes des Français, nouvelles attitudes commerciales. Moi, j'en appelle au Made in France, comme toujours.
Comme toujours, est-ce que c'est la solution? On va en parler. Christian Chavagneux, la question, elle est cash, mais on y va. Est-ce qu'Amazon, pour vous, ça n'est qu'un profiteur de crise, un grand méchant loup?
En tout cas, oui, Amazon bénéficie de la pandémie, c'est très clair. Pendant la pandémie, c'est un géant qui grandit encore. Les dernières stats qu'on a, monde, c'est pour le troisième trimestre. Le chiffre d'affaires, plus 37% sur un an, les bénéfices multipliés par 3. Pendant la pandémie, le deuxième trimestre chez nous en France, premier magasin en ligne sur les produits culturels, où on parle d'Amazon, les livres, etc., mais aussi sur la mode, l'électroménager, beauté santé, jeux et jouets, meubles et décorations. On voit que le problème d'Amazon, c'est qu'il étend son empire sur à peu près tout ce qui peut se vendre. Alors avant la pandémie, on nous disait Amazon, c'est 20% de part de marché, disent les uns, sur le commerce en ligne, 50% disent les autres. En tout cas, que ce soit 20 ou 50, c'est très très loin devant ses concurrents. Alors bien sûr, Amazon nous dit, et son patron l'a dit sur les antennes de France Inter cette semaine, oui, mais les ventes en ligne, c'est 10% du commerce de détail. Donc avoir 20 ou 50%, ça fait que 2 ou 5% du commerce total.
C'est des petites choses.
C'est des petites choses. Mais personne n'a jamais dit qu'Amazon était le seul magasin en France. Le problème, c'est qu'Amazon est en position dominante et croissante dans les ventes en ligne. Et c'est un disrupteur de commerce. Pourquoi? Parce que si on craint que la vente en ligne détruise les commerces de centre-ville, c'est vrai, toute la vente en ligne, pas seulement d'Amazon, mais Amazon, lui, ça donne une nouvelle dimension, parce que ça, c'est une dimension qui n'a jamais été aussi forte, de la vente en ligne. Ça s'empare de tous les secteurs. On a vu l'annonce cette semaine qu'aux États-Unis, ils ouvraient les pharmacies. Enfin,
Ils vont ouvrir des produits prescrits.
Et puis, Amazon rachète des boutiques physiques. Donc moi, c'est ça mon inquiétude. C'est ce géant qui grandit est en train de prendre la valeur ajoutée de tous les autres secteurs.
Alors, est-ce que vous êtes aussi inquiet que Christian Laurent ou est-ce que pour vous, on a entendu, non mais arrêtez, c'est un bouc émissaire parfait, c'est vraiment... Voilà, c'est un peu les Amish encore, on a l'impression qu'on revit le débat Amish. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent?
Il faut bien reconnaître qu'il y a un peu, pour reprendre un mot de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, il y a un peu une psychose française. C'est-à-dire que la boîte Amazon est bien commode pour y ranger un certain nombre de nos névroses, voire de nos paradoxes. D'abord, effectivement, le commerce en ligne a explosé en France en 10 ans. Il a été multiplié par 4. C'est considérable. Amazon y a pris une part importante. Mais c'est vrai que, et Christian disait, si on s'en tient aux quelques chiffres qu'on a, ils ont une part de marché aujourd'hui sur la totalité du commerce de détail qui est de 1, 2, 3%. Donc on n'en est pas encore, évidemment, à cette hégémonie qui est dénoncée. C'est vrai qu'ensuite, Amazon a une très très forte efficacité, ils sont leaders, mais c'est un leader qui, évidemment, aujourd'hui, est en France plus challengé, par exemple, qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, la part de marché d'Amazon est infiniment plus forte. Et il faut voir qu'en France, le français Cdiscount est numéro 2 du nombre de visites mensuelles chaque mois, et sans doute en chiffre d'affaires.
Pas si loin derrière.
Moitié moins.
Et le troisième est à moins de 5%. Donc,
et il y a un très très fort attachement. Il y a un très très fort attachement des Français à des enseignes comme Fnac, Darty, Leroy Merlin, Leclerc, Carrefour. Et je précise que quand on regarde le chiffre d'affaires d'Amazon aujourd'hui, qui est à peu près autour de 7 milliards d'euros, il faut être capable de rapporter à celui de Leclerc qui est de 38, à celui de Carrefour qui est de 42. C'est le chiffre d'affaires de Darty. Hein, le chiffre d'affaires de Darty Fnac en France aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires d'Amazon. Donc, bien sûr, il faut être vigilant sur tous les dangers, pourquoi pas à un moment ou un autre de position dominante. Ça, je pense qu'il y a des autorités qui y veillent. Mais il faut aussi garder raison et regarder peut-être nos vrais sujets. Amazon n'est pas responsable et du chômage et de la digitalisation des commerces.
Alors voilà. On va y venir.
Il y a un moment où il faut aussi accepter qu'on a nos propres problèmes.
Alors je rebondis, Christian, Amazon, on va prendre par quoi ? Est-ce que Amazon n'est pas responsable de la dévitalisation des centres-villes ? Dévitalisation, je l'ai bien dit.
C'est sûr que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on s'inquiète du fait que le commerce en ligne prenne la place des petites boutiques, alors c'est tout le commerce en ligne qui est en jeu, et pas seulement Amazon. Mais pourquoi est-ce qu'on cible Amazon ? Parce que je crois qu'on est d'accord là-dessus avec Laurent. C'est le premier acteur, et de très loin. Et c'est en train de donner une nouvelle dimension au commerce en ligne. Quand on voit les progressions, le chiffre d'affaires, c'est juste un site. Autant de chiffre d'affaires que Darty, Fnac, qui sont des magasins qui sont là depuis des années. C'est déjà énorme. Moi, ça me fait peur.
Mais j'aimerais revenir un instant sur peut-être certaines pathologies. Quand on regarde un peu les stats européennes, on se rend compte de quoi ? Qu'il y a seulement 27% des TPE et PME du secteur du commerce en France qui sont digitalisés. Là où il y a 64% de la population française qui achète en ligne. Donc il y a un retard. C'est 72% en Allemagne des entreprises aujourd'hui de même taille, sur le même segment, qui sont digitalisées. Et les entreprises françaises disent « Moi je manque de temps, je manque de fonds propres, je manque de budget. » Et 75% de ceux qui achètent en ligne aimeraient aujourd'hui que les commerces de proximité offrent des services pour commander sur Internet. Donc il y a aussi une demande des consommateurs, et sans doute en France, le commerce de détail a été assez long à avancer sur ce chemin, et c'est sans doute lui qu'il faut pouvoir aider aujourd'hui. Et moi je regrette peut-être que le plan de relance, on l'avait dit déjà ici, puisse permettre d'être ce levier.
On va en parler avec le reportage, vous allez voir. Christian Chavagneux, moi j'ai un chiffre quand même sur lequel j'aimerais avoir une vérification. C'est le chiffre qu'avait donné l'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, sur l'emploi, qui avait dit un emploi chez Amazon coïncide, alors je sais plus quel est le verbe exactement, avec 2,2 emplois dans le commerce traditionnel supprimé.
Non, honnêtement, la réponse est personne n'en sait rien. Quand on regarde vraiment le calcul de M. Majoubi, on s'aperçoit qu'il nous dit qu'à chaque fois que vous achetez sur Amazon, c'est que vous n'achetez rien du tout dans la petite boutique locale. Donc, ce qui n'est pas juste. Amazon en France, c'est 130 000 emplois. Donc, on pourrait dire que c'est pas rien.
Au global.
110 000 en logistique, nous disent-ils, 93 000 dans les bureaux et 13 000 vendeurs tiers. Le problème, c'est qu'on a une enquête de Jean-Baptiste Malek, c'est un bouquin qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelait « En Amazonie ». Il s'est fait embaucher dans les entrepôts. Il décrit des conditions de travail exténuantes, physiquement, mais aussi moralement, un contrôle permanent. D'ailleurs, Amazon en a marre des salariés, ils sont en train de développer la robotisation de tous les entrepôts. Et on a une magnifique enquête qui est sortie l'année dernière de Benoît Berthelot, Le Monde selon Amazon. Il nous décrit une société dans laquelle l'organisation est très hiérarchique. La concurrence et la surveillance des salariés les uns par rapport aux autres, érigés en mode de fonctionnement, et c'est burn-out à tous les étages. Le taux de rotation des dirigeants, des cadres d'Amazon est l'un des plus élevés au monde. Et donc voilà, c'est ça les conditions de travail d'Amazon. Qu'Amazon soit efficace, comme nous dit Laurent, il a été plus efficace qu'une entreprise, plus efficace que les autres, mais c'est à quelles conditions ? Quels sont les ingrédients de la réussite ? Et l'un des ingrédients de la réussite, c'est des mauvaises conditions de travail.
Alors, sur l'emploi, sur le quantitatif, donc est-ce que vous, Laurent, vous avez plus d'informations ?
J'ai regardé le papier de Majoubi et toutes les discussions autour, et je crois que les calculs sont pour le moins discutables et à discuter, mais je reviens un instant sur les arguments de Christian, qui sont importants. Il y a une spécificité pour un GAFA, hein, ces fameux Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est que Amazon est une boîte de coq bleu. C'est une boîte où il y a des travailleurs, et c'est pas une boîte de cadres ou de geeks. Il n'en reste pas moins que quand on regarde aujourd'hui le salaire moyen, mais le niveau de salaire minimum chez Amazon aujourd'hui est $15 de l'heure. C'est-à-dire ce que promet Biden aux États-Unis. Ce que promet Biden. Donc c'est une entreprise qui, aux États-Unis, semble être plutôt en avance. On regarde les profits du second semestre, puisque le second semestre, ça a été celui du confinement. Amazon a mis au second semestre, ou semble avoir mis, c'est à vérifier, 4 milliards d'euros pour la sécurité de ses salariés sur la table. C'est-à-dire la quasi-totalité des bénéfices de ce semestre. Et quand je regarde les déclarations, et on trouvera des déclarations évidemment très contrastées, mais par exemple du délégué CFDT en France, il dit une chose qui me paraît assez évidente. Amazon n'est ni pire ni meilleur que les autres employeurs de la logistique, et c'est sûr que c'est un secteur où le boulot est difficile. Au sens où c'est vrai, c'est une entreprise qui un peu comme d'autres plateformes, sert un peu de tremplin pour entrer dans l'emploi à des gens qui sont plutôt éloignés du marché du travail. Je pense notamment aux minorités ethniques aux États-Unis, afro-américains, hispaniques. C'est aussi le cas en Allemagne, c'est aussi le cas en France. Donc je pense qu'il faut regarder tout ça avec énormément de précautions, mais aussi beaucoup de nuances.
Ok, alors sur l'emploi, moi j'ai l'impression que vous êtes nuancés tous les deux, en effet. Est-ce que ce qui nous dérange le plus au fond, c'est que c'est un pirate fiscal ?
Alors Christian. Oui, ça c'est sûr qu'Amazon c'est un pirate fiscal. C'est la Commission européenne qui nous l'a dit il y a 2-3 ans. Les pratiques d'optimisation fiscale agressive, comme on dit, organisées avec la complicité du Luxembourg, permettent à Amazon, nous dit la Commission européenne, de réduire de 3/4 ses bénéfices imposables en Europe. Du coup, la Commission a dit vous devez 250 millions d'euros de redressement fiscal. Ils sont sous ces cas. Au début, l'entreprise n'a pas voulu donner l'argent. Finalement, elle a donné l'argent. C'est sous ces cas. En attendant une décision de la justice européenne. En fait, on a eu une enquête aussi de Bercy. Chez nous, en France, 98% des entreprises étrangères qui vendent sur le site français fraudent la TVA, selon Bercy. Aux États-Unis, le taux d'imposition moyen sur les dernières années d'Amazon, c'est 3%, qui est devenu négatif en 2019 parce qu'ils ont réussi en plus à trouver des crédits d'impôt qui font qu'ils ont des déductions fiscales supérieures à ce qu'ils doivent. Et dans l'enquête de Bertolo que je citais tout à l'heure, il y a un portrait psychologique de Jeff Bezos qui est très intéressant. L'une de ses dimensions, c'est qu'il a horreur des impôts.
Ok, il a horreur des impôts. Mais Christian, j'ai envie de vous dire, ils sont pirates, mais en même temps, je veux dire, on a tous les chiffres. Est-ce qu'il faut en vouloir à Amazon, Laurent ? Ou est-ce qu'il faut en vouloir à la faiblesse des États ?
Non, on n'a pas tous les chiffres. On court après les données en France sur l'impôt sur les sociétés. C'est combien, par exemple, payé par Amazon ? Vous avez eu le PDG sur France Inter, on lui a posé la question, il répond pas.
Il répond pas. En effet, il y a des chiffres masqués. Mais bon, est-ce qu'il faut en vouloir à Amazon aux États et à la règle de l'unanimité sur la fiscalité en Europe, quoi.
Si on fait un petit radio-trottoir devant la maison de la radio ce matin, on se rendra compte que tous les Français sont comme Jeff Bezos, s'agissant de leur comportement vis-à-vis de l'impôt.
Mais on gagne pas autant, Laurent.
Ah, ça, je vous le concède. Mais pour revenir à ça, deux points importants. D'abord, Amazon n'est pas responsable de l'incurie de l'Europe. Et je pense qu'effectivement, il y a avec les Irlandais, avec les Néerlandais, avec les Luxembourgeois, des choses qu'on doit absolument travailler. C'est le sens aussi, je crois, de la présence de Thierry Breton au sein de la Commission européenne, d'une part. Deuxième sujet, le gouvernement français a voté fin 2018 une taxe dite GAFA. Vous savez qu'on va chercher à taxer 3% du chiffre d'affaires réalisé en France des grandes entreprises numériques, notamment américaines. N'oublions pas qu'il y a aussi derrière Amazon des choses qu'on ne veut pas voir, mais c'est que la part du commerce en ligne est beaucoup plus forte en Chine qu'aux États-Unis. C'est 16% aux États-Unis, c'est 20% en Chine. On va voir arriver des acteurs qui, à mon avis, nous feront regretter Amazon.
Alibaba ?
Bien sûr, à un moment ou à un autre, Alibaba, WeChat et autres. Deuxième sujet, je pense que la fiscalité est un point extraordinairement important. Il ne faut pas oublier tout ce qui est en train de se passer. C'est en discussion là, en ce moment, à Bruxelles, sur la question des données, sur la question, effectivement, qui va être posée...
Le Digital
Market Act, où on va demander aux uns et aux autres de ne pas utiliser leurs données, par exemple, pour favoriser leurs produits. Donc il y a des questions qui sont effectivement très importantes et auxquelles Amazon doit répondre.
Et en même temps, on est obligé, quand on est une grande société multinationale comme ça, qu'on fait autant de milliards de profits, que vos profits progressent aussi vite que ça, je l'ai dit, en deuxième trimestre multiplié par, au troisième trimestre multiplié par 3, vous ne pouvez pas passer à côté de votre devoir fiscal. Quand en même temps, vous faites payer une taxe Amazon à toutes les entreprises que vous voulez mettre sur votre site. Parce que Amazon, c'est une place de marché aussi. C'est-à-dire, c'est un endroit où il y a d'autres entreprises qui viennent pour vendre leurs produits. C'est 60% des ventes du site au niveau mondial. 30%, c'est des produits chinois. En France, les PME locales, c'est moins de 5% de ce qui est vendu. Et à quel prix ? Vous avez l'abonnement obligatoire, les commissions, le stockage. En gros, d'après Bertolo, la marge qu'il faut laisser, c'est 30%. La taxe Amazon, c'est 30%.
Alors, ma dernière question, et ça va être... En une poignée de secondes, est-ce que la solution, c'est la pétition pour dire Noël sans Amazon ? Est-ce qu'il faut boycotter Amazon, Laurent ?
Moi, je pense que chaque consommateur doit faire comme il veut. La pétition lancée faisait 32 000 signatures hier, sur un objectif de 200 000. Le sujet, c'est de savoir quelle est la réponse, effectivement, des industriels du commerce en France, des petits commerçants. Ça passe par l'émergence de marketplace française aussi. Et il y en a de plus en plus qui se développent. Donc moi, je trouve que c'est plutôt sain. Il faut qu'il y ait de la concurrence.
Christian ?
Il fallait reporter le Black Friday, je vais m'en sortir comme ça. L'UFC Que Choisir nous a dit moins de 10% des produits bénéficient d'une ristourne et la ristourne moyenne c'est 7,5%. Ne nous laissons pas avoir par ce modèle de l'abondance à tout petit prix. C'est le modèle des années 60, c'est de la surconsommation. On n'en peut plus sur le plan environnemental.
Bon, vous mettez ça dans les mains des consommateurs, ok. Alors, comment, on a beaucoup parlé du petit d'Amazon, le petit commerce. Comment tournent ailleurs les petits commerces? Et vous allez voir, Laurent, on parlera aussi de digitalisation. Ce matin, on n'est pas très loin, on part en Allemagne, l'Oss. Et on arrive chez vous, Ludovic, pieds tenus à Berlin, bonjour. Ludovic ?
Oui, bonjour Alexandra et bonjour à toutes les mamans de France Inter.
qui vous écoute, je suis sûre que votre maman aussi. Alors vous êtes le correspondant permanent de France Inter, Outre-Rhin. Comment vont les petits commerces, les Kleingewerbe ? Aucun des 16 Länder n'a été contraint de les fermer, mais chez vous on ne rigole pas du tout avec le protocole sanitaire. Hein.
Oui, la règle c'est 10 mètres carrés par client, c'est prudent, on met plus de distance qu'en France. En tant qu'acheteur, ça veut dire que parfois vous faites la queue sur le trottoir et à l'intérieur, masque obligatoire, on trouve du gel, parfois un marquage au sol à l'approche de la caisse. Mais pour les petits commerçants, vous l'avez dit Alexandra, qui sont quasi tous restés ouverts au printemps ou ce mois-ci, à part les bars-restaurants, ce protocole sanitaire, franchement, c'est presque du détail quand ils s'imaginent avoir la même affaire en France et se retrouver classés en non-essentiel ou première nécessité. Ces concepts, fort heureusement pour eux et pour l'économie du pays, n'ont pas existé en Allemagne.
En revanche, le concept dont on parle beaucoup en ce moment chez vous, c'est la Digitalisierung. Ça, en revanche, c'est un mot bien allemand pour parler de transformation numérique de l'économie. Les responsables politiques en parlent depuis des années, mais c'est bien cette pandémie qui est en train de forcer les uns et les autres à passer de la parole aux actes.
Oui, c'est le réveil numérique de l'Allemagne, si j'ose dire, parce que ce nouveau confinement pèse sur l'économie. Je lisais ce matin dans Handelsblatt le résultat d'une enquête auprès de 13 000 entreprises de tout type, de toutes les régions. Plus de la moitié enregistre une baisse de la demande. Elles vont donc réduire leurs dépenses, sauf pour cette Digitalisierung, comme il a fallu trouver des solutions créatives pendant la crise. Près de 4 entreprises sur 10 ont accéléré leur numérisation et presque autant ont développé cette année leur présence en ligne. Plusieurs Länder d'Allemagne donnent un coup de pouce au commerce de détail, une aide jusqu'à 12 000 euros en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 15 000 euros ici dans la capitale Berlin. Attention, c'est sur facture. Hein. Un récent rapport de la KfW, l'équivalent de notre banque publique d'investissement, montrait que ces trois dernières années, les 4 millions de PME allemandes n'avaient quasiment pas dépensé un centime en la matière. L'Allemagne bouge, l'Allemagne dépense. Et avant de parler de 5G, ça laisse peut-être un espoir de capter rapidement la 4G sur son téléphone partout dans Berlin.
Ah ouais, vous êtes un petit peu en retard là-dessus. Allez, Ludovic Piétenu en direct avec nous depuis Berlin. Merci à vous. Merci aux débatteurs de ce samedi, Christian Chavagneux et Laurent Bigorgne. Dans 10 minutes, on va s'intéresser aux comptes sous Covid des entreprises et des ménages, les dettes, l'épargne. Ça sera avec Thierry Laborde, le directeur général adjoint de BNP Paribas. Et comment améliorer les comptes quand la fréquentation, le chiffre d'affaires font un grand plongeon? Est-ce que, on vient encore d'en parler, ce saut dans le 2.0 peut aider les commerçants? Je sais que c'est un peu tôt, mais allez-y, mettez vos bottes. On part à la campagne, près de Nantes. Voilà les rangées de vignes de la famille Châtelier. Nous suivons notre reporter, Manuel Ruffez, qui n'a pas envie de se perdre. Alors il écoute ce que la dame lui dit.
Prenez la deuxième sortie sur avenue de la Vendée.
Voilà, ça doit être là. Je suis sur le lieu dit. Je vais m'approcher. On va aller voir.
Marie Châtelier. Donc je suis la femme de Christian Châtelier. Chez les Châteliers, on est viticulteur de génération en génération depuis 1820. Et donc ce bâtiment était au départ l'étable. Et puis à côté, une vieille grange où on mettait le foin et on nourrissait les animaux.
Et alors aujourd'hui, c'est quoi ?
Et alors aujourd'hui, on a tout retransformé pour y accueillir les clients et faire notre caveau de dégustation.
Alors rentrons, on va aller jeter un coup d'œil.
Normalement, tout se passe ici. On a tout au long de la journée des clients qui viennent.
Quel pourcentage de vos ventes vous faites ici ?
Je dirais 85 à 90% au domaine.
Et alors aujourd'hui, comment ça se passe ?
Aujourd'hui, c'est très triste, si je peux dire, parce que là, depuis le confinement, si on a deux clients dans la semaine, on est content, quoi. Bon, déjà, il y a quand même beaucoup de mariages qui se sont annulés, donc ça nous fait des ventes en moins. Les marchés de Noël, les Nouvel An du Muscadet a été annulé, le marché de Noël à Saint-Nazaire où on participe a été annulé. Là, c'est sûr que pour nous, le deuxième confinement, oui, c'est très dur. C'est très, très dur.
Bonjour.
Voilà, alors Arthur, qui est notre salarié viticole, nous a dit, j'ai vu sur Instagram, qu'il se crée un site sur Nantes qui s'appelait Mon Noël Nantais pour venir en aide aux petits commerçants qui sont fermés et rendre service aux Nantais qui ont l'habitude de faire leurs courses de Noël en novembre et qui ne peuvent plus les faire.
Mon Noël Nantais, c'est une plateforme de vente ?
Oui.
Donc vous connectez, vous avez
code. Ils ont créé des vidéos pour nous expliquer comment monter le site, comment gérer les livraisons, les prix de commande, tout ça.
Pour l'instant, ça fonctionne ou qu'est-ce que ça donne ?
Pour l'instant,
ça fait combien de temps que ça c'est
Alors le site, nous on a lancé notre page il y a 5 jours. On a pas mal de retours des gens qui viennent nous mettre des messages sur Instagram, sur Facebook, sur tout ça et pour faire tourner la page aussi. Donc on attend plus que les commandes maintenant.
Mais bien sûr, c'est Arthur, le salarié viticole. Il a la vingtaine, hein. Il a l'âge d'être le fils de Marie et c'est lui qui a fait basculer les châteliers dans la vente en ligne de leurs bouteilles. Mettre en place un site, du click and collect, s'enregistrer sur une place de marché, elles sont nombreuses en ce moment à rattraper leur retard, les PME, les TPE, à se jeter dans le grand bain d'Internet. Mais est-ce que le digital va pouvoir compenser les pertes du physique ? Allez, Manuel Ruffez est remonté dans sa voiture. Nous voici à présent dans le centre-ville de Nantes, la boutique de Lucille et Elisa. Intérieur épuré, blanc, au mur de très grandes fontaines à robinets, avec des liquides blancs, oranges, jaunes. C'est très beau, mais c'est quoi ?
Alors, on a séparé notre boutique en deux coins, si vous voulez. On a les produits ménagers et produits d'entretien d'un côté et les produits cosmétiques de l'autre. Lucille, cofondatrice de la société Muzu.
Et moi, c'est Elisa, donc cofondatrice également de la société Muzu.
On a ouvert le tout premier samedi du deuxième confinement. Évidemment, ce n'était pas prévu.
En fait, on ne sait pas où on va. On n'a pas de chiffres antérieurs pour se dire bah là, on est un peu plus juste ou pas. Donc c'est vrai qu'on commande vraiment à zéro, c'est page blanche.
On commence difficilement, ça c'est sûr.
Parce que j'imagine que vous avez investi.
Ça représente un nombre à 6 chiffres, ça c'est sûr, donc assez conséquent. Il y a eu énormément d'investissements et surtout l'investissement de notre concept, c'est les distributeurs de liquide en vrac.
Vous animez déjà des réseaux sociaux, vous êtes visible déjà ?
On est sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn, parce que c'est vrai que LinkedIn maintenant est un outil puissant pour le réseau, puis même le réseau nantais. Est plutôt chouette là-dessus et suit pas mal les initiatives comme nous, donc on est plutôt contente.
Et vous deviez monter votre e-shop, c'est ça, votre commerce en ligne ?
Ouais, tout à fait. On s'était mis un peu une deadline aussi courant 2021, on s'était dit. Et en fait, au vu de la situation, effectivement, on est actuellement en train de le développer. Et il devrait voir le jour d'ici quelques jours, semaines, je pense, avant la fin du mois de novembre.
Et alors, en attendant, vous êtes inscrite sur ce site ?
Oui, c'est ça. Alors, c'est Mon Marché Nantais, Mon Noël Nantais, pardon. Et on s'est dit, pourquoi pas, ça peut nous permettre une meilleure visibilité. Donc, on se dit qu'on peut quand même faire de beaux cadeaux pour Noël avec cette plateforme.
Mon Noël Nantais, c'est une initiative privée d'un collectif baptisé Moon Moon. Des indépendants qui utilisent la technologie Shopify pour développer le commerce en ligne. Au premier confinement, ils ont cassé leur prix pour créer des sites. Là, ils font plus simple et moins cher, une place de marché locale sur laquelle s'enregistrent eux-mêmes les commerçants artisans ou indépendants, 10 produits maximum et une commission sur les ventes de 2,5%. Thibaut, c'est lui le développeur.
Dans le premier confinement, on a lancé une offre. L'objectif, c'était de créer un site e-commerce en 4 jours maximum. Avec un prix assez canon pour que les commerçants puissent vendre leurs produits en ligne assez rapidement et rebondir sur ce souci du confinement.
C'est quoi un prix canon pour une création de site ?
4-5 000 euros.
Ça, c'est un bon prix ?
Surtout pour un site livré en 3 ou 4 jours.
Et la deuxième confinement, vous avez une autre idée ?
On s'est dit qu'on pouvait refaire les mêmes choses, mais que finalement, c'était un peu bête de proposer des sites à plein de commerces différents et que chacun fasse un peu sa vie de son côté. Et on s'est dit que ce serait plus puissant de tout mutualiser, de tout mettre sur une même plateforme et de nous communiquer sur cette plateforme pour inciter les gens à venir dessus. Et je pense que le côté solidarité est aussi un argument très puissant. Et le fait d'avoir fait cette plateforme solidaire sur laquelle on retrouve tous les commerçants fait que les gens ont envie de venir dessus parce que juste en visitant, juste en faisant suivre l'information, finalement, ils participent à tout ça et déjà, ils aident énormément les commerçants qui sont sur la plateforme.
Évidemment, c'est la FEVAD qui le dit, la Fédération du e-commerce. Tous ces efforts ne remplaceront pas les ventes en boutique ni le manque à gagner de cette période de confinement. Au ministère de l'économie, on note pourtant une appétence de plus en plus prononcée des consommateurs pour l'achat en ligne.
Nous voilà à Bercy, ministère de l'économie.
tous les couloirs de ces immenses bâtiments sont quasiment vides. Je pense que tout le monde est en télétravail.
Bonjour, je suis Thomas Courbe, directeur général de la Direction générale des entreprises. Il y a évidemment des attentes des clients d'acheter en ligne qui sont très importantes et il faut que les commerces s'y adaptent. On a vu par exemple, depuis le début de la crise sanitaire, qu'on avait 1,6 million d'acheteurs supplémentaires en ligne en France. Une étude que nous avons menée cette année montre que 37% des entreprises petites et moyennes ont un site en ligne, que simplement 9% d'entre elles vendent en ligne et 5% seulement sont présentes sur des places de marché.
Et donc que fait l'État, que fait Bercy pour cette transition numérique ?
Alors nous avons lancé le 10 novembre un plan. La première, c'est un site internet qui s'appelle cliquemoncommerce.gouv.fr. Donc on voit qu'il y a déjà un grand nombre d'acteurs qui ont utilisé ce site pour trouver une solution. Le deuxième axe, pour accompagner et inciter en fait les commerçants à faire cette démarche de numérisation, on met en place un financement à hauteur de 500 euros pour chaque commerçant, artisan qui est fermé pendant le confinement pour financer finalement une partie de cette solution numérique. Troisième axe de ce plan, c'est un financement des communes. Pour un certain nombre de commerces, la meilleure solution, c'est d'être présent sur une place de marché locale dans laquelle les clients du quartier, les clients de la ville vont retrouver leurs commerçants habituels, notamment pendant la période de confinement, pour se faire livrer ou faire du click and collect. Et donc on finance jusqu'à 20 000 euros pour chaque commune qui décidera de mettre en place une place de marché qui sera dédiée à cette commune.
Et alors au total, combien l'État met d'argent sur la table ?
Alors on a annoncé 100 millions d'euros d'aide. Et notre objectif, c'est d'atteindre la moitié des commerces numérisés d'ici la fin de l'année 2021.
Des aides, des idées, beaucoup d'initiatives un peu partout. Mais il reste une inconnue. Dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, est-ce que nous, consommateurs, allons nous précipiter pour acheter ? On n'en est pas certain du tout, dit Anne-Sophie Alsif, chef économiste au Bureau d'information et de prévision économique. Alors dites-moi, est-ce que nos commerçants ont raison de se battre et d'espérer ? Est-ce que la consommation va suivre de ce que vous pouvez en savoir aujourd'hui ?
Alors, ils ont raison de se battre et d'espérer. Bien évidemment, l'objectif, c'est vraiment la réouverture le plus tôt possible pour limiter les conséquences sur les chiffres d'affaires et surtout profiter des différents achats de Noël où beaucoup de ces très petites entreprises font entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc, bien sûr, il y a raison d'espérer. Ensuite, la difficulté, c'est bien sûr les ménages et leur anticipation. Le premier confinement était plutôt très dur et très bien suivi, mais on a vu que le déconfinement s'est accompagné d'achats qui n'avaient pas pu être faits pendant cette période, tout l'été. Les chiffres ont également été importants en septembre. Le problème aujourd'hui, c'est l'anticipation, parce que beaucoup de consommateurs se disent qu'on sera dans des phases de confinement et de déconfinement. Et donc, de fait, il faut mieux garder cette épargne de précaution qui a été accumulée en prévoyance de peut-être des pertes d'emploi, des pertes de revenus et donc de l'augmentation de la crise, notamment au premier trimestre 2021.
La digitalisation des commerces à marche forcée, et ce qu'on pourrait en espérer, c'était le reportage de Manuel Ruffez.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité du Mag Éco vient de s'asseoir dans le studio 521, c'est le directeur général adjoint de BNP Paribas. Bonjour, bienvenue Thierry Laborde.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
La consommation, c'est la grande question, on vient de l'entendre. Vous qui avez un œil sur de nombreux comptes de Français, est-ce que nous sommes prêts à consommer ou est-ce que nous sommes toujours en train d'épargner sauvagement pour ceux qui le peuvent ?
Alors ce qu'on voit, et votre reportage était très intéressant, c'est des chiffres très récents, des paiements. Les indicateurs de paiement, c'est des données clés. On voit un écart très fort, une différence très forte entre le premier et le deuxième confinement. Dans ce deuxième confinement, le total des paiements ne baisse que de 15%. Ça avait baissé 37% lors du premier confinement sur la première semaine de confinement. Donc il y a une réaction un petit peu différente. Et ce qu'on voit surtout, ce qui monte, alors que ça avait baissé la première fois, c'est tout ce qui est lié au e-commerce, à la vente à distance, en particulier chez les petits commerces. Donc une adaptation qui s'est faite assez massivement et des comportements d'achat qui suivent. Alors ça ne suffira pas à compenser cette baisse de chiffre d'affaires, mais au moins ça permet de tenir. Parce que franchement, cette crise, elle est très brutale et surtout, elle est injuste. Parce qu'il y a des secteurs qui se portent plutôt bien et il y en a d'autres, je pense, au petit commerce et surtout au restaurant, qui souffrent beaucoup, beaucoup. Donc, je pense à eux en ce moment.
On va parler justement des entreprises, de leur situation. Encore une question quand même sur les ménages. Elle est très inégalitaire, cette crise, en effet. Est-ce que vous voyez monter des signaux sur les ménages qui tombent dans le rouge, qui seraient peut-être de plus en plus dans le rouge, sur les impayés? Bref, est-ce que vous voyez parmi vos clients des gens qui en effet basculent, s'appauvrissent? Et quelle proportion?
Ce qu'on voit, c'est l'inverse. Aujourd'hui, dans cette période, vous savez que les banques facturent des commissions sur des mauvais comportements parfois.
Les agios,
les commissions d'intervention, etc. Eh bien, tout ça, en ce moment, baisse massivement. C'est des baisses très significatives. Pourquoi? Parce que les gens sont très prudents, font attention, gèrent leur budget. Donc, c'est l'effet inverse.
Donc pas de signal inquiétant.
À ce stade, mais il faut anticiper. Hein. Il faut anticiper en particulier pour l'année 2020. C'est là où on va voir monter un peu le chômage. Hein. Vos journalistes le disaient. Des cas plus difficiles dans les entreprises. Et là, utiliser tous les recours individuels de cas par cas, d'identification de ce qui peut être fait pour reporter, étaler quelques remboursements de crédit pour aider les clients à passer cette période difficile.
Alors justement, les entreprises, quand aujourd'hui un chef d'entreprise vient chez vous demander un crédit ou alors un moratoire sur les remboursements ou alors un prêt garanti par l'État, est-ce que les banques jouent le jeu? Est-ce que les banques l'accompagnent? Quelle est la proportion de oui et de non par rapport à ces demandes?
Alors je crois que d'abord la mission des banques, on parle beaucoup d'entreprises en mission, hein, c'est dans l'air du temps et c'est bien normal. Dans cette crise, les banques montrent bien que leur mission, c'est bien d'accompagner les clients dans cette période difficile. Alors sur votre question sur le PGE, le PGE c'est un grand succès.
Le prêt garanti par l'État
pour assurer la liquidité, c'est-à-dire faire un pont entre la période difficile et l'après, parce qu'il y aura un après. Je rappelle que le troisième trimestre, le rebond en France était très important. Et ce rebond, il est là. Il est un peu retardé, mais il est là. Il aura lieu. Avec l'horizon qui s'ouvre quand même sur des vaccins, on ne sait pas quand et comment, mais ça arrivera.
Vous êtes très optimiste ce matin. Vous voyez
optimiste.
Le rebond?
Mais moi, je vois le rebond parce qu'on l'a déjà vu. On l'a vu au troisième trimestre. Le rebond de l'activité en France, en Italie, dans ces deux pays, a été supérieur au troisième trimestre avec toutes les estimations qui avaient été faites. Donc on l'a vu. Il est là. Il est retardé, puisqu'il y a le deuxième confinement, en particulier en France. Mais le sous-jacent est là.
D'accord. Mais il va falloir quand même aider des entreprises à franchir cette passe.
Donc
la réponse à ma question, le pourcentage d'acceptation, par exemple, si je vous demande un prêt garanti.
Aujourd'hui, c'est 97% le pourcentage d'acceptation sur le prêt garanti par l'État. C'est 130 milliards, 125 milliards, 620 000 entreprises qui en ont bénéficié et qui ont été prudentes dans ce qu'elles ont demandé. Puisque c'est 12% des entreprises en France. Et c'est 17% des possibilités d'emprunt.
Il y a trop de chiffres. Vous me dites que seulement 12% des entreprises ont demandé un prêt garanti par l'État.
Sûr. C'est le nombre d'entreprises qui ont demandé un prêt garanti par l'État. Et elles ont utilisé, alors qu'elles pouvaient utiliser 25% de leur chiffre d'affaires de l'année passée, seulement 17%. Et vous voyez, la restauration, là, a utilisé le PGE à 60% par rapport aux 12%, beaucoup plus fortement, mais simplement un peu moins en termes de possibilité de tirage. Donc il y a encore quelques possibilités de tirage pour les entreprises qui voudraient le faire. Et vous savez qu'on a pris deux décisions importantes avec le gouvernement. La première, c'est de reporter la fin du PGE jusqu'au 30 juin 2021.
Ça veut dire qu'on va pouvoir toujours venir toquer à votre porte et demander un prêt garanti par l'État.
Ou un complément quand on en a fait un, premier élément. Et deuxième élément, dans la phase de remboursement, pour rembourser le PGE, on peut le rembourser sur les 5 ans qui viennent, on pourra bénéficier d'une nouvelle année de différé de remboursement au capital. Mmh. Donc ça, c'est deux éléments de souplesse.
Mais pas avec le même taux.
Qui s'adaptent. Bah, avec un taux
sur
qui sera
ans,
un
là,
petit peu différent, puisqu'il va se baser entre 1% et 2,5%, coût de la garantie de l'État compris.
2,5% quand même, quand les taux sont négatifs, c'est beaucoup.
Oui, mais les coûts de liquidité, à la fois le prix coûtant pour la banque, c'est pas gratuit, c'est pas zéro. Et puis, faut bien nous indiquer que dans ce taux, il y a le coût de la garantie de l'État.
Bon, alors la question que se posent les économistes quand même, c'est là aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des entreprises qui ne vont pas tenir le choc malgré tout ça. Les défaillances, on est à moins 30%. Comment voyez-vous la situation en 2021? Est-ce que là, on va avoir une vague d'entreprises qui va quand même mourir?
Il y aura des cas difficiles, bien sûr, il y en aura.
Ok, mais c'est une vague, évident. C'est une vaguelette, c'est comment vous voyez les choses, vous ?
C'est difficile de le dire, hein. En tout cas, nous on sait accompagner les entreprises sur des restructurations financières. Il faudra restructurer des endettements d'entreprise, c'est des choses que l'on sait faire.
Restructurer, hein. Ça veut dire, je vous dis, bah, monsieur Machepro, vous pouvez payer, pas cette année, mais dans deux ans, c'est ça, restructurer ?
Ça veut dire pardonner, ou c'est abandonner aussi, hein. Ça veut dire abandonner, transformer du crédit en dette obligataire pour des plus grandes entreprises, etc., etc., en capital éventuellement.
Hein. Les banques vont abandonner une partie de leur
Les
créances.
Banques le font dans les restructurations d'entreprises et les banques ont déjà provisionné massivement en 2020 le risque à venir, puisque vous savez que dans les normes comptables, les nouvelles normes comptables, nous sommes obligés maintenant de provisionner d'avance les sinistres à venir. Donc on a, cette année, notre coût du risque chez BNP Paribas a doublé en 2020. On a provisionné d'avance des risques à venir demain, en 2021, en 2022.
Et est-ce qu'on peut avoir une image de la masse que vous vous attendez à perdre ou du nombre... Ça va représenter quoi?
C'est un peu dans les chiffres de notre coût du risque de cette année, on le voit déjà. Hein. C'est doublement de ce coût du risque, donc c'est quand même très significatif. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans l'avenir, dans 2021, au-delà des cas difficiles, il y a aussi, et ça il faut être vraiment optimiste, parce que les entrepreneurs, dans l'ADN d'un entrepreneur, il y a entreprendre. Et ce que l'on voit aussi, on le voyait sur la transformation digitale, il y a la relocalisation des chaînes d'approvisionnement. Il y a beaucoup de réflexions chez les entreprises pour mieux régionaliser, être moins dépendant de la Chine ou de l'Asie, régionaliser leurs chaînes d'approvisionnement, financer leur transition énergétique, écologique, numérique, on en a parlé. Et là, encore une fois, il y aura beaucoup de plans de modernisation qui seront portés, beaucoup de projets d'entreprise. Et bien sûr, il faudra être là pour les financer. Avec, et là aussi, c'est la deuxième nouveauté, ça arrive au printemps prochain, en avril 2021, la capacité qu'auront les banques, avec là aussi un soutien de l'État, de faire des prêts participatifs longs.
Des quasi-fonds propres.
Des quasi-fonds propres pour renforcer les fonds propres des entreprises. C'est quand même 20 milliards, hein. C'est un montant très significatif.
Alors, encore une question quand même sur ce qu'on est en train de vivre. Pour l'instant... On a compris, on prête à beaucoup de monde. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer des entreprises zombies ? C'est toujours la même question, c'est-à-dire ces entreprises qui finalement vivotaient avant, qui n'auraient pas dû durer, et que là on maintient en vie. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer un problème ?
Je pense que les même si on finance très très largement en prêt garanti par l'État, encore une fois à 97% de taux d'acceptation, de taux de financement, il y a des entreprises qui n'y ont pas accès. Parce qu'elle ne rentre pas dans les critères du prêt garanti par l'État.
Donc c'est pas une inquiétude, les zombies pour vous.
C'est celle-là auquel vous pensez. Le prêt garanti par l'État, c'est essentiellement des TPE. L'entreprise zombie, on n'est pas sur l'artisan, le commerçant, qui lui est très utile à son environnement de proximité. Donc on est sur des cas très très différents.
Dans ce contexte, comment ça va se passer l'emploi dans la banque ? Là, on a vu des suppressions de postes chez la Société Générale, chez HSBC. Chez BNP Paribas, ça va aller comment ?
On sait qu'il faut, pour faire de la banque demain, il faut un peu moins de monde qu'aujourd'hui. On sait le régler depuis déjà quelques années, hein, puisque on fait ça par le turnover naturel, hein, par la pyramide des âges, ce qui permet de faire ces adaptations sur l'emploi dans les banques. Mais on aura toujours besoin de collaborateurs et on en recrute beaucoup chaque année.
Et des jeunes donc ?
Et des jeunes, donc beaucoup par l'alternance d'ailleurs. Beaucoup d'alternants dans la banque, en particulier chez nous.
Allez, en une poignée de secondes, le conseiller payant à 12 euros, ça c'est une nouveauté, c'est en test chez vous ? Est-ce que les clients ils
adhèrent ? C'est en test, ben ils adhèrent, oui bien sûr. Avec bien sûr, le conseiller payant, c'est pas simplement un conseiller payant, c'est surtout un conseiller mieux formé, plus compétent et avec beaucoup plus de talent, hein, pour accompagner le client dans ses sujets d'épargne. Vous voyez, l'épargne, les taux sont à zéro. Pour avoir un peu de rémunération sur son épargne, il faut de l'épargne plus longue, de nature différente, correspondant aux volontés des clients. Par exemple, l'épargne à impact, l'épargne dans des fonds ISR ou...
Un investissement social,
gouvernance, etc. Et ça...
Les gens sont prêts à payer aller voir leur conseiller bancaire.
Bien sûr.
Bon, on va retenir et on va retenir l'optimisme de Thierry Laborde ce matin pour 2021. Il va y avoir de la casse, mais il va y avoir aussi de la mutation, hein, c'est
ça ? La mutation, des opportunités et des bonnes nouvelles, Alexandra.
Thierry Laborde, le directeur général adjoint de BNP Paribas. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, on a encore beaucoup de questions des auditeurs sur le télétravail. D'abord celle de Vincent, il est agent dans un hôpital et ça fait 6 mois qu'il travaille depuis chez lui pour raison médicale. Mais il doit utiliser son vieil ordinateur. Est-ce que son employeur est tenu de lui fournir le bon matériel ?
Déjà Vincent, vous êtes considéré comme une personne vulnérable. Votre employeur, privé ou public,
a l'obligation de protéger votre santé. Si votre poste n'avait pas été télétravaillable, l'hôpital aurait dû vous accorder une autorisation spéciale d'absence, l'équivalent du chômage partiel des salariés du privé. Mais surtout, à partir du moment où vous travaillez depuis la maison, vous devez le faire dans des conditions correctes. Je rappelle que l'administration, comme dans le privé, doit prendre en charge les coûts qui découlent directement de l'exercice des fonctions en télétravail. Ça veut dire tout ce qui concerne matériel, logiciel, abonnement, communication et outils de maintenance. Et puis, il y a le bon sens, c'est ce que rappelle Virgile Pradel du cabinet Pradel Avocat. Pour faire du bon travail, il faut des bons outils. Votre employeur ne pourrait d'ailleurs pas vous reprocher, Vincent, de mal faire votre boulot si vous avez encore un bon vieil Atari. Et quand on travaille, comme vous, Vincent, sur des données de santé, des fichiers sensibles, mieux vaut que l'employeur fournisse du matériel sécurisé, ce qui lui éviterait d'avoir de gros pépins en cas de piratage informatique. Enfin, dernier point, ne pas fournir le bon matériel pourrait dans certains cas être assimilé à des risques psychosociaux, à du harcèlement moral.
On continue, Sandrine, avec Sabine. Elle télétravaille également, mais son employeur demande à 10 salariés de suivre une formation pendant 15 jours dans les locaux. Est-ce qu'il a le droit de faire ça, vu le contexte sanitaire ?
Alors, juridiquement, Sabine, si votre employeur met en avant des raisons objectives pour que cette formation soit suivie en présentiel, vous êtes obligé d'y assister. C'est ce que confirme Virgile Pradel. D'autant plus s'il s'agit d'une formation de couturière ou de chirurgien qui nécessite de montrer et de reproduire des gestes. Pour un cours sur la dernière norme AFNOR 27001, l'employeur pourrait choisir la visio ou simplement le différer. Mais là encore, s'il décide que la jauge est petite, que toutes les normes de sécurité sont respectées, il peut imposer le présentiel. Vous pouvez toujours essayer de le convaincre qu'il prend un gros risque judiciaire en cas de contamination des participants. Le mieux, Sabine, mais c'est vrai aussi pour vous, Vincent, c'est de vous rapprocher de votre DRH et des représentants du personnel.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, vous pouvez bien sûr lui laisser vos questions sur le site de l'émission en passant par franceinter.fr. Toute l'équipe d'On n'arrête pas l'écho vous souhaite un bon week-end.